Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote.
France Musique. Musicopolis. Pianopolis, chapitre 3. Un piano dans son salon. Vers 1830, à Paris, dit aussi Pianopolis, le piano est l'instrument moderne par excellence. Il se fabrique, se vend, s'achète, se joue, se travaille et suscite un nouveau répertoire. On pourrait penser que cette mode a à voir avec l'éclosion de la génération romantique, de ces artistes exaltés et poètes pour qui l'adoration de la musique a quelque chose de mystique. Eh bien oui et non. En fait, la vogue du piano coïncide surtout avec l'établissement de la bourgeoisie comme classe dominante, avec l'émergence d'une société de consommation et avec une florissante aventure commerciale. Paris est devenu un lieu de ralliement pour pianistes. On vient de l'étranger pour se faire adouber et chaque mois les journaux regorgent de noms nouveaux. Ils deviennent même des sujets de conversation. Dans l'une de ses chroniques, Delphine de Girardin, femme de lettres et salonnière, rapporte en mai 1845 « Cette semaine était la semaine des pianistes. On n'a parlé que piano, qualité de son, style et méthode. C'était des querelles à n'en plus finir. Chacun défendait son virtuose. » Un soir que les discussions étaient arrivées presque à la fureur, un juge éclairé et compétent les a terminées par cette définition plaisante qui a mis tout le monde d'accord. Au piano, Thalberg est un roi, Liszt est un prophète, Chopin est un poète, Herz est un avocat, Kalkbrenner est un ménestrel, Madame Pleyel est une sibylle, Doller est un pianiste. Certes, c'est grâce aux musiciens et aux pianistes-compositeurs avant tout que l'instrument piano a pu se développer. Mais pour le perfectionner à ce point, les facteurs ont dû mettre de gros moyens et passer d'une production artisanale à une production de plus en plus industrielle. Donc, il a fallu faire ce qu'il fallait pour vendre. Mais qui donc achète les pianos ? Depuis la Révolution de 1830, le pouvoir en France appartient à une nouvelle classe bourgeoise, aisée. Les éléments les plus représentatifs de cette classe habitent à Paris, sur la chaussée d'Antin, non loin de l'Opéra et du Théâtre italien, du Conservatoire, du Boulevard du Temple et de tous ces théâtres, non loin également des facteurs de piano. Le piano, tellement à la mode, est bien sûr, dans sa version grand piano à queue, un signe extérieur de richesse quasiment obligatoire. Dans un opuscule écrit en 1862, Oscar Commettant, lui-même pianiste, compositeur et critique musical, détaille la foule des pianistes qu'il divise en plusieurs grandes catégories. Les virtuoses qui composent et ceux qui ne composent pas, les accompagnateurs, les professeurs qui exécutent et ceux qui n'exécutent pas, le pianiste pour soirée dansante et enfin, le plus nombreux, l'amateur. Commettant prétend que grâce au recensement, on a pu dénombrer 20 000 professeurs de piano à Paris et qu'avec une moyenne de 5 élèves chacun, le nombre de personnes prenant des leçons monterait donc à pas moins de 100 000. Le recensement, qui nous donne 20 000 professeurs de piano à Paris, ne nous dit pas qui sont les élèves. Mais nous savons que parmi ceux-ci se trouve une grande majorité de personnes du sexe féminin. Jeunes filles ou femmes, on pourrait dire aussi à marier ou déjà mariées. Un dictionnaire des professions de 1842 affirme « L'éducation d'une femme n'est pas complète sans la musique ». Le même dictionnaire des professions ajoute que la musique est de tous les arts, celui qu'une femme peut apprendre, cultiver et même exercer comme profession avec le moins d'inconvénients, avec le plus d'avantages. Le sort des femmes obligées de travailler pour vivre est si déplorable que nous ne devions pas négliger cette observation. Si, comme le dit ce dictionnaire, les femmes peuvent exercer la profession musicale sans trop d'inconvénients, c'est que les femmes qui travaillent sont assimilées à des ouvrières, une condition considérée comme inférieure. La profession de musicienne serait, en cas de pépin, de revers de fortune ou d'accident de la vie, un recours convenable pour celles qui se trouveraient sans ressources. La demande étant exceptionnellement forte, devenir professeur de piano pourrait s'avérer un bon plan. En effet, selon Oscar Commettant, sur 100 musiciens amateurs, 95 au moins jouent du piano. Thank you. Les jeunes filles et les femmes qui jouent du piano participent à la sphère économique qui s'est créée autour de l'instrument. Une sphère qui s'accroît de plus en plus au cours du siècle. Une fois les maisons bourgeoises les plus aisées fournies en piano, il a fallu élargir l'offre pour développer le marché. Les grands pianos à queue, représentant une dépense trop importante et ne trouvant pas à se loger dans des appartements plus petits, les facteurs, Pleyel en tête, ont conçu une gamme de pianos droits, faciles à caser dans le salon le plus exigu. À tout logement, dorénavant, correspondra son piano. Le piano entré dans le salon, quelle que soit sa taille, viendra le temps des leçons. J'ai parlé des 20 000 professeurs recensés à Paris. Une fois choisi le sien, il faut trouver une méthode. Depuis celle de Jean-Louis Adam en 1804 pour le conservatoire, suivie du cours complet d'Hélène de Mongeroux en 1812, elles se sont multipliées. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Et si vous avez l'impression que vous n'avancez pas assez, vous pourrez vous aider de l'un des appareils que l'on vous vendra dans les magasins de musique. Je ne vous donne pas le détail, mais chacun d'eux est fait pour contraindre le bras, le poignet, la main, les doigts, d'une manière ou d'une autre, et pour que l'aspirant pianiste prenne tout de suite les bonnes habitudes et le bon placement. Vous aurez le choix entre le chiroplaste de Laugier, le dactylion de Kluesman, le chirogymnaste de Casimir Martin ou encore l'assouplisseur de doigts de Levaché d'Urclé. Dans son ouvrage « De l'enseignement du piano », Félix Lecoupet, professeur au Conservatoire de Paris, nous donne une bonne idée de la place du piano dans les mœurs du XIXe siècle. Son premier chapitre s'intitule « Pourquoi ce livre ?» Réponse : depuis quelques années, l'enseignement du piano a pris une extension considérable. Autrefois, l'étude de la musique était regardée comme le privilège d'une éducation brillante. Aujourd'hui, il n'en est plus ainsi. Dans tous les rangs de la société, dans presque toutes les conditions de fortune, une jeune personne doit savoir jouer du piano. Thank you. amusant dans le livre de Félix Le Coupé, c'est que dans tous les chapitres non techniques, il accorde le mot « élève » au féminin, comme si tous les élèves des professeurs de piano étaient des jeunes filles. C'est ainsi qu'il brosse quelques portraits. L'élève capricieuse, l'élève ergoteuse, puis les élèves vaniteuses, frivoles, frondeuses, découragées, nerveuses, etc. C'est au chapitre de la mémoire que Félix Le Coupé nous livre la description d'une petite scène bien instructive sur les mœurs de Pianopolis. Les jeunes personnes, écrit-il, habituées en général à paraître dans le monde avec réserve, avec modestie, doivent préférer, lorsqu'elles s'y font entendre, que ce soit, pour ainsi dire, d'une manière improvisée. Jouer par cœur n'affiche aucune prétention. En effet, quoi de plus simple et de plus naturel dans une réunion intime qu'une jeune fille se mettant au piano pour être agréable aux personnes qui l'en ont priée ? Si le succès ne répond pas à l'attente générale, n'a-t-elle pas alors l'excuse bien légitime d'avoir été prise au dépourvu ? Apporter de la musique trahit au contraire le projet de se faire entendre. Dans ce cas-là, évidemment, on s'est préparé et l'auditoire, sans manquer à l'indulgence, a peut-être le droit de se montrer plus exigeant. Voilà peut-être à quoi rêve, dans ses rêves les plus fous, la jeune fille priée de jouer au salon. On entendait ici Vladimir Horowitz dans une étude de Moskovski jouée en bis lors d'un concert à Carnegie Hall. Mais justement, revenons au salon. Au cours du 19e siècle, cette pièce essentielle des appartements, petits ou grands, se garnit d'instruments. Dans le catalogue des opinions chics de son Bouvard et Pécuchet, à l'article piano, Flaubert écrit « indispensable dans un salon ». Il y en a pour toutes les bourses et on n'est même pas obligé de l'acheter. Vers le milieu du siècle, il y a, dit-on, dans le seul département de la Seine, c'est-à-dire à Paris, 63 000 pianos en location. Une fois que les jeunes élèves ont pris suffisamment de leçons et se sont exercés sur les études des maîtres, elles peuvent aussi se livrer à la joie du quatre mains. Thank you. Même dans Paris, où joue l'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire, il n'est pas fréquent de pouvoir entendre les symphonies de Beethoven, de Mozart, de Haydn ou de Mendelssohn. À cette époque, où il n'y a pas encore d'enregistrement, la seule possibilité de connaître la musique des grands maîtres, c'est de la jouer soi-même. Les réductions à deux ou à quatre mains abondent donc. Et vous pouvez trouver dans les magasins de musique à peu près tout le répertoire classique et romantique de symphonies et d'opéras. Les opéras, qui fournissent également le support pour nombre de variations, réminiscences et autres paraphrases. Et bien sûr, à votre piano pourra se joindre tout instrumentiste que vous aurez invité à jouer dans votre salon. Grand duo concertant sur des thèmes de Robert le Diable, de Frédéric Chopin et Auguste Francomme, Sol Gabetta au violoncelle, Bertrand Chamaillou au piano. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Philippe Petit pour la réalisation, Cédric Chatelus pour le mixage, Hortense Leblouc pour les recherches et Clément Diaz pour le site.
À réécouter sur francemusique.fr.